France Culture.
Et vous écoutez France Culture. Que ce soit vers les films d'horreur ou non, je fais aller une fois l'histoire vers la mort, vers une forme de néant. Et ensuite, à partir de ce néant, je me demande ce qu'il y a au-delà. Kyoji Kurosawa, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, largement enregistré à Reims en ce samedi à l'occasion de Reims Polar, la 5e édition du Festival international du film policier qui honorait notamment cette année Stephen Frears et Kyoji Kurosawa. Le réalisateur de Cure, Charisma et Cairo nous a accordé un long entretien où il revient sur Cloud, son dernier film, ainsi que sur son rapport au cinéma de genre et à l'esthétique de la terreur. Chronique en second temps d'émission signée Sixtine Audebert, Antoine Guillot et Paloma Hermine Hidalgo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mauvais genre cinéma ce soir, mauvais genre polar, mauvais genre angoisse, fantastique, épouvante, mauvais genre Kurosawa. Pourquoi? Bien parce que, je le répète, on est allé à Reims il y a quelques semaines à l'occasion donc de ce festival, troisième année que nous y allions. Toujours l'occasion de faire de grandes découvertes et de saluer des personnages importants du cinéma de genre. Et cette année, eh bien, bonheur de rencontrer, de s'entretenir en compagnie donc de Philippe Rouillet et de Stéphane Dumenildo avec Kyoji Kurosawa. C'est donc en première partie d'émission, une émission que je fais en compagnie de Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Tout le monde va bien?
Tout le monde va très bien. Une actualité peut-être. Nous venons de réunir les derniers textes parce qu'il faut toujours remettre encore un coup là où c'est déjà passé sur David Lynch pour le numéro hors série 84 de Mad Movies. Et donc j'ai remis une couche sur Sailor et Lula, toujours.
Très bien. Ben, heureuse couche et heureux numéro de Mad Movies. Paloma Hermine Hidalgo qui nous prépare un livre.
Tout à fait. Une variation sur le mythe du golem dans un castelet de marionnettes obscènes et lesbiennes. Féerie ma perte. En juin.
Le désir de séduire vous tuera, ma jeune amie.
Je vois que je réussis avec vous, cher François, à chaque coup.
Antoine Guillot, avez-vous passé votre semaine dans un castelet de marionnettes lesbiennes avec le golem?
Ah non, j'ai passé ma semaine en Euskadi, sur la Neuskadi. Basque, mais je suis allé rendre hommage aux sorcières de Zugarramurdi dans les grottes côté espagnol.
Bon, bah comme quoi, les gens de mauvais genre sont toujours là où il faut et quand il faut, soyez les bienvenus et merci d'être présents. On commence bien sûr avec le son mystérieux, incantatoire de Monsieur Laurent qui a demandé à Kyoji Kurosawa, eh bien ma foi cher maître, quelle est votre définition du mauvais genre ?
うわ、難しい質問だな。やったことがないジャンルのものもいっぱいあるんですけど、やってみたら結構悪くないっていうこともあるので、でもそうですね。
Question très difficile. Alors, je vais y répondre peut-être, on va dire, de façon littérale et au premier degré, en tant que genre de film, disons. Il y a des genres que j'ai pas essayé, évidemment, j'ai pas tout fait. Mais il y a des genres auxquels je me suis frottée, confrontée, qui me plaisaient pas au départ et que j'ai finalement fini par aimer. Donc je crois que dans l'absolu, il n'y a pas de mauvais genre. Mais je vais peut-être inverser la formule et vous dire dans quel genre moi je suis mauvais. Et donc, il y a un genre en particulier qui est le boy meets girl, c'est-à-dire un homme rencontre une femme et il tombe amoureux. Et ça, je suis très très mauvais. Alors, il y a des films dans lesquels l'amour existe déjà, c'est-à-dire l'homme et la femme, ou en tout cas les deux partenaires s'aiment déjà et on les voit entretenir cet amour déjà existant. Ça, je pense que je suis plutôt bon. Mais les rencontres hommes-femmes, c'est pas mon fort du tout.
Voilà, le mauvais genre selon Kyoichi Kurosawa, retrouvé d'ailleurs comme tous les mauvais genres de nos invités sur les réseaux sociaux. Une réaction, Antoine Guillot, à la vision genre mauvais du maître.
Oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Il ne fait pas se rencontrer des gens, il les filme étant des gens là, étant déjà ensemble, mais ce qu'il montre aussi, c'est la déréliction, quoi. La déréliction de société, la société japonaise en particulier, et comment elle se déshumanise aussi avec son grand motif qu'on retrouve dans Chime notamment, hein, parce que vous avez dit, vous avez parlé de Cloud, mais il y a Chime qui sort une semaine avant fin mai, où on retrouve ce motif de la contamination, c'est-à-dire que le mal contamine. Alors que ce soit parce que vous regardez un site internet, parce que vous rencontrez un mystérieux amnésique, parce que un de vos élèves dans un cours de cuisine se plante un couteau dans la tête parce qu'il entend un bruit. À partir de là, tout se dérègle et c'est le grand motif du cinéma de Kyoichi Kurosawa. Alors après, il va le décliner sur des purs principes de mise en scène. Dans Chime, c'est par la soustraction. Il y a des choses horribles qu'on voit, mais que ne voient que les personnages et pas nous. Ou alors dans Cloud, où ce sera sur le principe de la concrétion de quelque chose qui est impalpable.
On va en parler après l'entretien.
Et ça, c'est voilà. À chaque fois, on a l'impression qu'il se dit je dois explorer ce motif de mise en scène et je vais presque trouver le récit pour pouvoir le pratiquer.
Très bien, merci Antoine. Mais on revient sur Cloud après l'entretien. Mais avant cela, Cécile Audebert, vous étiez à Reims pour suivre le festival, donc 5e édition. Quel est votre constat?
Personnel, oui, bah, comme d'habitude, une programmation très généreuse avec pas moins de 4 rétrospectives thématiques et 2 programmes de compétition. Alors, le pays à l'honneur cette année était l'Angleterre avec une rétrospective intitulée British Noir qui, entre autres, effectivement, conviait Stephen Frears pour présenter ses films. J'ai particulièrement apprécié la projection du très 80s The Heat, qui est une sorte de trip mélancolique d'une bande mafieuse de pieds nickelés. Il y avait également d'autres films comme Le Tueur de vieilles dames, qui est une comédie très Bill Noir d'Alexander McKendrick avec le très cartoonesque Alec Guinness, Le Troisième Homme de Carol Reed, Ken Loach, Hitchcock, voilà des merveilles. Il y avait comme chaque année également une autre rétrospective qui est le quota, disons, des grands Chabrol, une cuvée cette année très 90 avec L'Enfer, Rien ne va plus et Au cœur du mensonge, mais aussi le très savoureux Masque qui est daté de la fin
Philippe
des années
Noiret 80. Et Anne Brochet.
Inoubliable dans cette performance en
mielleux télé, voyou.
Ouais, tout à fait. Il y avait également une rétrospective qui est là chaque année, qui est la rétro Second Souffle, qui met à l'honneur des restaurations et l'hommage à Kurosawa que vous allez longuement commenter. Alors en compétition, il y avait le grand prix, celui qui a obtenu le grand prix Island de Jan Ole Gerster, que je n'ai pas vu, peut-être Antoine l'a vu. Mais en revanche, je peux vous parler du prix du jury, qui était présidé cette année par Bruno Podalides, qui est également le prix du public et qui s'intitule Little Jaffna de Lorenz Wallin. C'est un jeune réalisateur qui est aussi l'acteur principal de ce film, qui est un film à la fois politique, épique et follement exotique. Hein, une sorte de plongée touristico-bollywoodienne dans la communauté tamoule de Paris, qui est, ma foi, un Paris tout à fait méconnaissable. Et j'aimerais revenir sur 2 films qui n'ont pas été primés. Mais sur lequel la lumière, ma foi, mérite d'être jetée. 2 films qui ont pour thème la filiation et une certaine expérience de la virilité. Alors, il y a mon coup de cœur du festival qui est Edge of Night de Türker Sür. Je ne sais pas vraiment comment on prononce. Mais donc, c'est une exégèse, disons, sous l'angle de la famille, de l'histoire politique du pays turc, qui est matinée d'un antimilitarisme qui n'ôte rien à l'élégance virile des personnages, avec une photographie et une mise en scène superbe, des perspectives vertigineuses, labyrinthiques et anxiogènes qui sont encore amplifiées par la crudité corrosive de la lumière du désert. C'est un film qui est très immersif et resserré, hein, ça dure 1h30 et c'est donc d'une efficacité redoutable. Et je nommerai encore Le Clan des Bêtes, qui est le premier long métrage de Chris Andrews. On y a consacré quelques pages dans le dernier numéro de Mad Movies et qui est dans la lignée actuelle des films sur la ruralité, mais qui excède donc les simples thématiques thématique, disons, de lutte territoriale de bergers pour aborder d'une manière très originale la transmission intergénérationnelle comme forme de fatalité. Et c'est un film qui est travaillé par une vraie violence. Et le bon indicateur de ce genre de choses, c'est évidemment quand les spectateurs quittent un à un la salle, ce qui s'est produit.
Vous avez compté, on ne compte pas les moutons, mais les spectateurs.
Ah bah là, vous pouviez compter les moutons et les spectateurs. C'est à peu près au rythme des moutons qui tombaient, les spectateurs s'en allaient. Voilà. Donc c'était vraiment une superbe édition et il faut absolument que les auditeurs de Mauvais Genre essaient l'année prochaine ce fort fameux festival.
Oui, allez-y, parce que c'est un festival à la fois fort bien organisé par la maison Hopscotch et puis en même temps qui propose vraiment la planète noire dans sa totalité. Antoine Guillot, on vous y donne rendez-vous.
Oui, bah moi je vois les films après le festival, mais j'ai vu A Little Jaffna qui est très étonnant, effectivement. C'est une sorte de polar hongkongais qui se passe dans le quartier de la Chapelle à Paris. C'est très réussi. Laurence Verlaine sera prochainement dans Plan Large pour en parler. Et puis j'ai vu aussi le Sang des Bêtes qui est pas mal dans sa première.
Le Sang des Bêtes, ça me rappelle un autre film.
Non, pardon, Le Clan des Bêtes.
Le Clan des Bêtes, oui. Enfin, franchement.
Il y a du sang quand même. Il y a du sang des bêtes dedans. Non, c'est une sorte de film de white trash irlandais assez poisseux qui est très intéressant dans sa première partie. C'est un peu dommage que dans la seconde, il donne le contre-champ de la première partie et qu'il enlève un peu tout le mystère qu'on a beaucoup aimé dans la première.
Oui, c'est sans doute quand même pour arriver à une fin qui est plus ouverte et plus légère que la première partie.
On aurait aimé que ce soit encore plus âpre.
En tout cas, deux hommages rendus durant ce festival. Sixtine, vous en avez parlé. Stephen Frears, Noir Britain. Et puis, Kyoichi Kurosawa, qui était là, alive and well, comme on dit. Il y a eu un grand hommage nocturne avec Philippe Rouyer, qui a prononcé un discours d'adulation au maître, très lyrique et très nourri d'idées, comme à son habitude. Et puis nous, l'après-midi, on a pu rencontrer, en compagnie de Philippe Rouyer, bien évidemment, et de Stéphane Duménildo, qu'on salue, le maître Kyoichi Kurosawa, à propos bien sûr de Cloud, le film qui était à l'honneur au festival, mais de son cinéma et de son esthétique et sa poétique de l'horreur. Bonjour Kyoichi Kurosawa, merci d'accorder cet entretien à France Culture, Mauvais Genre, et ce dans le cadre du festival Reims Polar 2025. Nous sommes donc à Reims, dans le cadre de l'Opéra Reims, qui est à la fois un cinéma, un lieu lyrique, et un lieu au moins pour les quelques jours du festival, voué au polar et à l'univers des genres. Je serai avec Philippe Rouyer, que je salue.
Bonsoir.
Et avec Stéphane Duménildo, salut également.
Bonsoir.
Qui revient de Tokyo, donc qui peut témoigner très fraîchement de l'univers dont nous allons parler. Alors, première question, Philippe Rouyer, effectivement, sur l'actualité donc de Kyoichi Kurosawa et ce film Cloud qu'on a pu découvrir à Reims.
Voilà, qui est présenté à Reims. Et donc, qui est un film... Qui relève réellement du polar. Mais j'ai lu que la genèse de ce film commençait en 2018. C'est votre film nouveau, c'est un film qui date donc de 2024. C'est en 2018 que vous avez commencé à y penser. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots comment vous avez eu idée de ce film? Je rappelle l'action, c'est un jeune homme qui achète des biens, des goodies, pour les revendre et spéculer sur Internet. Et évidemment, il y a un moment, des gens ne sont pas du tout contents de cette activité-là et vont essayer de se venger de lui. Donc ce film, l'idée, c'était déjà de parler d'Internet en 2018.
そうですね。この映画のアイデアを最初に思いついたのは2018年ぐらいだったと思います。たまたま友人に転売をやっている男がいたというのが最初のきっかけでした。
彼は全く、
En effet, l'idée du film m'est venue en 2018. À l'origine, c'est parce que j'ai un ami qui est revendeur lui-même. C'est un homme extrêmement discret, extrêmement sérieux, qui n'est pas forcément fait pour travailler dans une entreprise ou pour avoir une vie professionnelle, on va dire, plus ordinaire. Et donc, c'est un métier qui n'est pas très bien considéré au Japon. On a tendance à penser que c'est un peu des arnaques ou que les revendeurs sont des arnaqueurs. Mais en le voyant et en l'écoutant parler de son métier, je me suis rendu compte qu'en fait, pour lui, c'était presque un moyen de survie dans cette société capitaliste qui parfois a tendance à laisser peu de place, on va dire, à d'autres possibilités pour ceux qui ont du mal à s'adapter au système. Et donc cette idée-là m'a donné envie d'aller y voir un peu plus loin.
というような関係を作るのが、本当に、
Cet ami en question n'a pas d'ennemis, c'est-à-dire lui, il fait son métier de façon très sérieuse et ordinaire, disons, mais il y a toujours cette peur peut-être d'avoir des ennemis, c'est-à-dire de se rendre compte que tout à coup, des gens qu'on n'identifie pas, des anonymes, tous ensemble, puissent se retourner contre soi. Et donc cette question-là d'une peur qui est non identifiée me semblait être un bon motif pour faire un film. Et puis surtout, ça permettait d'explorer la question du genre, de l'adapter vraiment à un film de genre. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais travailler sur ce projet.
Stéphane Duménildo.
Dans votre film Cairo, les fantômes et l'Internet provoquaient une sorte de dévitalisation, de déshumanisation qui gommait, qui estompait l'humanité. Là, on se rend compte que l'Internet produit des effets beaucoup plus virulents. Est-ce que la violence, justement, des réseaux vous préoccupe ?
そうですね。おっしゃるように、カイロを撮ったとき、それはもう今から25年ぐらい前ですけども、あの頃、インターネットが普及し始めた頃で、非常に魅力的であると同時に、不気味な、どことつながってるのか、
Oui, alors Cairo, c'était il y a presque 25 ans déjà, donc c'était vraiment les débuts d'Internet, les balbutiements d'Internet, et donc c'est un outil qui était extrêmement mystérieux, étrange, on comprenait pas exactement comment ça fonctionnait, donc c'était vraiment une source de fantasmes et d'illusions, il y avait une très grande projection possible sur tout le potentiel de cet outil. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, il s'est normalisé, c'est devenu beaucoup plus courant, c'est-à-dire l'usage d'Internet en lui-même est devenu quelque chose de très ordinaire. Donc, Internet en soi, comment Internet fonctionne, ce que c'est qu'Internet ne fait plus forcément peur. Mais ce qui fait peur, c'est que Internet peut révéler ou véhiculer des menaces. Et c'est la menace de l'autre, finalement. Si on fait très bon usage d'Internet, ça permet des actes de solidarité, ça permet de connecter les gens les uns avec les autres et donc de donner lieu à de grands élans humains et solidaires. Mais si on en fait un mauvais usage, à l'inverse, ça peut liguer les gens contre soi, ça peut générer des élans d'agressivité contre soi. Et donc, je crois que cet aspect-là d'Internet est ce que j'avais envie d'explorer aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard.
Kyochi Kurosawa, on sait que vous êtes donc un des maîtres au cinéma de la peur et de la terreur. Et là, vous vous attaquez à un objet qui est extrêmement quotidien, un ordinateur, des produits qu'on vend sur Internet, un commerce qui est passé dans le folklore et l'habitude des contemporains. Mais néanmoins, il y a quand même un sentiment d'angoisse et de terreur quand, par exemple, le vendeur fixe l'écran et qu'il voit que là, à quel point la vente va vite, sur la manière de filmer l'objet, le choix des objets, des sacs, des figurines de manga, il y a quand même là aussi une volonté chez vous d'aller chercher la peur dans l'ultra quotidien et l'ultra ordinaire.
そう言っていただければ嬉しいですね。僕もAmazonで買い物したり普通にしてますから、
Ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que c'est un peu ce que j'espérais obtenir, on va dire, comme effet. Moi-même, je fais des courses sur Amazon et je suis pas terrifiée à chaque fois que je clique pour acheter. Et en même temps, il y a quand même toujours un peu cette inquiétude ou peut-être cette angoisse qu'un ennemi surgisse de nulle part ou qu'on puisse provoquer à notre insu des réactions qui pourraient se retourner contre nous. Et donc, cette idée que le personnage soit face à un écran et que ce simple fait-là puisse être inquiétant, c'était un des enjeux de la mise en scène, donc je suis très content que vous le releviez.
Il y a quelque chose qui se joue avec cette mise en scène entre l'abstraction et le réel, c'est-à-dire que cet homme fait ce métier pour gagner de l'argent, à un moment il semblerait qu'il en gagne même beaucoup, mais on ne le voit pas récupérer cet argent, être avide de le dépenser, même l'argent devient presque abstrait, ça devient ces images qui se colorent sur l'écran, qui disent que les affaires se font. Et à l'inverse, à l'autre bout du spectre, il y a une violence bien physique qui est celle de ces gens qui se sont retrouvés sur le réseau et qui vont lui en vouloir. Et il me semble qu'il y a cette opposition très marquée entre l'image et puis comme si c'était le réel, la violence qui venait du réel.
そうですね。そうなんですよ。まあ、インターネットをやってようがやってまいが
Oui, internet ou pas, gagner de l'argent, ça semble être quelque chose qui anime quand même beaucoup de gens. Et l'argent est devenu, je pense aussi, du fait du capitalisme notamment, quelque chose de très abstrait. C'est-à-dire qu'on ne sait finalement pas à quoi va servir l'argent qu'on gagne. On ne sait pas concrètement, on en gagne, mais parfois on ne sait même pas quoi en faire. Ou alors on ne sait pas finalement quel est le sens de l'argent. C'est un peu l'argent pour l'argent. Et je crois que le personnage principal du film est vraiment quelqu'un de très ordinaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il a cette avidité, il a une forme de cupidité, et en même temps, je pense qu'il ne comprend pas forcément très bien quel est le désir profond qui est tapis derrière ça. Cela dit, là, le héros, finalement, est un homme ordinaire, quelqu'un d'assez, discret, ordinaire, dans une société japonaise contemporaine qui est décrite de façon assez réaliste. Et en même temps, je ne voulais pas me contenter de filmer la réalité, un personnage qui évoluerait dans une société contemporaine ne suffisait pas pour moi à en faire un film de genre. Il fallait qu'à partir de cette situation très ordinaire, je puisse trouver des éléments qui allaient faire basculer le film vraiment dans le genre. On a cet ordinateur, un personnage assis devant un ordinateur. Il fallait trouver la bascule, le moment, le déclencheur qui allait faire que cet homme allait se faire des ennemis. Et puis ensuite, il y a un peu d'action, c'est-à-dire on voit les corps physiquement se battre. Donc il y a vraiment une dimension finalement de divertissement pour le spectateur qui devait intervenir à un moment de l'histoire. Je pense que ce qu'apporte justement le médium cinéma, c'est cette dimension-là, cette dimension réjouissante pour le spectateur. L'excitation du spectateur, elle est vraiment au fondement, je trouve, c'est l'un des principes, on va dire, fondateurs du cinéma de genre. Et donc moi, il a fallu vraiment que je me casse la tête pour essayer de trouver les meilleurs outils, le meilleur moyen de mettre en image et de fictionner une situation qui au départ est très, très réelle et très ordinaire. Et j'aurais aussi pu me faciliter un peu la tâche en faisant, par exemple, de ce personnage principal, soit un yakuza, soit un policier, soit un soldat. Finalement, ça aurait été beaucoup plus facile de mettre un peu d'action, on va dire, ou par exemple de, voilà, de donner corps à cette histoire. Mais je voulais absolument partir de cette situation originale qui était cet ami que j'avais en tête, sa vie très discrète, son caractère un peu timoré. Et donc, pour pouvoir vraiment conserver cette idée-là originale et en faire un film de genre, il a vraiment, vraiment fallu que je, voilà, que je me casse la tête, comme je le disais à l'instant.
Stéphanie Menildo.
Oui, ce qui fait peur, bien sûr, mais ça, c'est une peur qu'on peut ressentir nous-mêmes, hein, par rapport à l'Internet. Hein. C'est que des gens qui sont des gens plutôt fades, plutôt timides, se transforment derrière leurs écrans en véritables monstres qui peuvent insulter et avoir une violence absolument terrifiante. Ce qui me faisait penser un peu à Cure aussi, hein, où dans le cadre du couple, ou de l'amitié, ou des collègues de travail, d'un coup, la violence pouvait naître grâce à cet hypnotiseur, même IA, qui venait posséder, en quelque sorte, les gens. Un peu comme si l'Internet aussi avait la même valeur hypnotique que l'hypnotiseur de Cure.
Merci beaucoup. Donc... 同じようなことばっかりやってるってことですかね。僕ね全然まあ毎回いろいろ新しいことに。
Du coup, je me demande si finalement je fais pas toujours la même chose en fait. j'ai l'impression que faire des films pour moi c'est un peu ça. C'est à la fois creuser le même sillon depuis très longtemps et puis en même temps essayer d'explorer, on va dire, de nouvelles manières peut-être d'aller toujours plus loin ou en tout cas de traiter de chacun des sujets de façon un peu différente à chaque fois.
Alors Philippe Rouillet, au milieu, à peu près, le film bascule avec l'apparition de ce lieutenant terrible, une espèce d'ange de la mort. Et puis le final est un gunfight, une bataille rangée redoutable. Là, c'est Kyoichi Kurosawa, amateur de Don Siegel, de Peckinpah et autres... cadors de la série B du film d'action américain, donc on change de cinéphilie là.
Oui, mais justement, je crois que c'est là que vous avez commencé à aimer le cinéma. Vous avez aimé Don Siegel et Peckinpah avant de découvrir Godard et les grands auteurs européens. Et on pourrait dire que votre cinéma est la fusion un peu entre ces deux sources d'inspiration, un côté très cinéma de genre et en même temps derrière un côté auteuriste qui ose s'intéresser à l'abstraction.
Ah, ça, c'est... Alors... ドンシゲルもペキンパンもまあ大好きですし、僕の映画好きになったもうきっかけになったような。
En effet, Don Siegel comme Sam Peckinpah sont vraiment deux réalisateurs que j'aime énormément, que j'ai découvert quand j'étais encore adolescent, parce que c'est des réalisateurs qui ont notamment fait des films dans les années 70. Et en fait, je me demande à l'heure actuelle si les jeunes connaissent en fait ces cinéastes. Mais pour nous, à l'époque, pour ma génération, ça a vraiment été des cinéastes extrêmement importants qui ont fondé vraiment la cinéphilie de beaucoup de gens de ma génération. Qui ont vu voilà ces films de genre américain.
ジャンル映画的なことで付け加えれば、僕はやはり今言いましたように1970年代のアメリカのジャンル映画に非常に影響を受けてるんですが、70年代のそういうアメリカのそういう映画って決して、完璧なジャンル映画のスタイルを持った
ce sont donc des cinéastes américains qui ont fait des films de genre aussi dans les années 70, mais on peut pas dire qu'ils faisaient des films de genre parfaits au sens où on imagine vraiment le film de genre. C'est-à-dire que pour moi, le film, voilà, les fondamentaux, on va dire, du film de genre, c'est plutôt les années 50 avec des cinéastes comme Howard Hawks, comme Alfred Hitchcock. Je pense que ces cinéastes-là ont vraiment façonné le film de genre, et dans les années 70 arrivent ces nouveaux, finalement, cinéastes américains qui, tout en conservant les codes, vont essayer plutôt d'intégrer, on va dire, dans leurs films à la fois le reflet de la société contemporaine dans laquelle ils vivent et puis tous les problèmes qui peuvent être charriés par cette société. Et donc je crois que ce mélange, on va dire, cette introduction de problèmes plus réalistes dans le genre, c'est quelque chose qui continue de m'influencer beaucoup dans mon travail aujourd'hui.
Stéphane ?
On pourrait dire que Claude serait à la jonction alors de deux types de cinéma que vous aimez. En effet, ce cinéma américain qui serait très, très concret, assez solaire quand même, hein, comme Peckinpah ou Don Siegel, et puis des productions plus obscurs et ésotériques. Je pense aux films de Val Newton pour la RKO, par exemple le cinéma de Jacques Tourneur ou de Robert Siodmak, qui est plus basé sur les ombres, sur les angoisses sourdes et sur des choses beaucoup plus mentales et imprécises.
ジャック・ターナーですか。なるほど。あの、ええー、まあ、あの、そう言っていただくと、まあ、大変嬉しいです。あの、まあ、自分ではわからないですね。まあ、ただ、いっぱいそういう映画をたくさん見てきているので、
Oui, alors Jacques Tourneur, ça, vraiment ça me touche. Je crois que je ne m'y attendais pas forcément. Et puis c'est difficile pour moi d'avoir un regard un peu objectif sur mon travail. Mais j'ai vu beaucoup de films en fait comme cela. Et je crois que ça m'a constitué à la fois en tant que spectateur, mais aussi comme cinéaste. C'est-à-dire je suis japonais, je vis au Japon, mais j'ai été extrêmement nourri par toute cette cinématographie. Et donc je pense que c'est un vrai compliment pour moi en fait quand vous me dites que ces influences peuvent se ressentir à travers mon travail.
Ce serait bien de revenir à vos débuts, quand vous fabriquez, vous appropriez le cinéma de genre pour faire vos débuts dans la mise en scène. Et vous commencez notamment avec des pinku, des films érotiques. Et par contre, le cahier des charges va finalement pas coller avec vos exigences. Vous allez vous fâcher avec la Nikkatsu sur une question de montage de Rémi Fagerl en 1985.
自分で自分の作家性って正直よくわからないんですよ。僕は自分のことは作家とはあんまり思ってなくて、まあ、職人であると、映画を作るために、僕たった一人でやるわけではないので、さまざまスタッフキャストの人たちにいろいろお願いして映画を作るという一つの、
C'est toujours difficile pour moi de parler,
運営していく仕事を任されている
on va dire en termes d'auteur ou d'originalité, de sensibilité artistique, de choses comme ça, parce que moi-même, je ne me considère pas comme un auteur. Je me considère vraiment comme un artisan. Un film ne se fait pas seul. Le réalisateur seul ne peut pas faire un film sans son équipe, sans ses comédiens. Et donc, moi, je me sens plus chef d'équipe. J'ai l'impression vraiment de diriger un collectif. Et donc, je suis plutôt en lutte contre cette idée qu'une partie de moi va se refléter dans mes films. Je ne le veux pas parce que je ne me considère pas comme un être humain très intéressant en soi. Je trouve que je n'ai aucun intérêt particulier. Et donc, j'ai très envie de croire que rien de moi ne déteint dans mes films. Et pourtant, inconsciemment, je pense que forcément, ça laisse des traces. Mon empreinte est quelque part. Mais moi, je le vis plutôt comme un poids, comme un fardeau. Et en tant qu'artisan, je trouve que cette patte, finalement, elle est plus gênante qu'autre chose. Et puis surtout, je considère aussi que c'est finalement peut-être le travail des critiques, justement, de mettre en exergue ce genre de choses, de me qualifier. C'est plutôt, on va dire, votre métier que le mien.
Stéphane ?
Oui, vous faites des films de genre très différents dans cette période où vous tournez pour le DTV, le direct-to-video. Donc, il y a des films de Yakuza un peu excentriques, comme Shoot Yourself or Suit Yourself, si je ne me trompe pas. Et il y a déjà des films de fantômes. Je pense à la série Gakko no Kaidan, Les fantômes de l'école. À quel moment vous vous dites « Ah oui, tiens, ça, c'est le genre qui me plaît. C'est là où je peux vraiment exprimer des choses. »
何度も言いますが昔から見ていて大好きでそういう映画を撮りたいなというものすごく素直な欲望から映画を作り始めたんですがそう簡単にジャンル映画というのはできないんですね。特に現代の日本でアメリカのジャンル映画みたいなことをやろうとしたら、それは全く成立しない。
La question est difficile et je ne sais pas si je vais réussir à bien y répondre. Disons que les films de genre, pour moi, c'est une question de goût personnel. Depuis que je suis en âge de voir des films, j'aime les films de genre et donc j'ai naturellement eu envie de faire un peu la même chose. C'est-à-dire une fois que je suis devenue cinéaste, j'ai eu envie de faire des films de genre. Depuis toujours, ça a été le cas. Il se trouve que c'est assez difficile à produire au Japon. En tout cas, si on rêve ou on imagine de faire des films de genre comme les films de genre américains, ça s'avère presque un rêve totalement inaccessible. Et je crois que finalement, ce qui me pousse à en faire et ce qui me pousse à continuer à rêver de ce genre de film, c'est précisément parce que c'est presque inaccessible. Et donc, je crois que c'est ce qui nourrit constamment mon désir. Mais je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question.
Kyoshi Kurosawa, on a parlé justement du cinéma fantomal, Val Lewton, Jack Tourneur, Les Ombres, Les Miasmes Noirs, le surnaturel qui est en lutte contre le dématérialisé. Quel est votre rapport, je dirais, avec la tradition horrifique? Par exemple, quelqu'un comme Edogawa Rampo, par exemple, ou Lovecraft, puisqu'on a fait récemment une émission avec Gutanabe, un grand mangaka qui travaille énormément sur Lovecraft. Est-ce que cette tradition du monstrueux, du grotesque, a une influence sur vous ?
これもですね、はい、ラブクラフトね、全部は読んでないですけど、一時好きで読みました。江戸川乱歩もそうですね。ただ、多分僕らの世代だと、そういう文学もそうなんですけど。
Oui, alors vous citez Lovecraft. J'ai pas lu l'intégralité, mais en tout cas, j'en ai lu quand même un certain nombre. Et puis, évidemment, Edogawa Rampo aussi que vous citez. Cette influence de la littérature, elle est présente. Mais en effet, je crois que les mangas d'horreur, disons, ont été encore plus importants, on va dire. Non pas que je sois un très grand connaisseur, mais dans les années 60, à partir des années 60, il y a eu cette tradition un peu du manga horrifique. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé à faire ce type de manga et j'en ai quand même lu un certain nombre. Et je crois que ça a clairement influencé mon imaginaire et c'est peut-être en effet ce qui m'a donné par la suite envie de m'essayer moi-même à ce genre-là.
Je ne suis pas très curieux sur le manga, mais à ce moment-là, 1960 年代ぐらいにもうすごく
Mais bien que je ne sois pas un très grand connaisseur, je sais que ces auteurs de mangas horrifiques qui ont été très prolifiques à partir des années 60 ont eux-mêmes été extrêmement influencés par le cinéma de genre et notamment le cinéma de genre américain. Et donc je pense que cette influence-là fait que leur travail à ces mangakas-là m'intéresse et me parle moi aussi. Et puis peut-être que, voilà, pour citer notamment trois auteurs qui ont nourri mon imaginaire, je dirais peut-être Tezuka Osamu, évidemment Mizuki Shigeru et puis Kazuo Umezu, qui sont vraiment trois auteurs de manga voilà, qui, je pense, eux-mêmes ont été nourris du genre et indirectement voilà, ont contribué aussi à développer mon imaginaire.
Stéphane ? Oui, Kazuo Umezu, que vous avez d'ailleurs adapté dans House of Bug, qui écrit des histoires d'horreur qui se passent dans des cadres familiaux, avec des histoires horribles, avec des mères qui veulent voler l'apparence de leur enfant, faisant des transferts de cerveau, des choses comme ça, absolument abominables. Et justement, dans vos films, l'horreur va pas venir de la galaxie ou du fond des mers, comme chez Lovecraft, ça va se créer de façon insidieuse à l'intérieur de la famille. Je pense à Creepy, par exemple.
そうですよね。確かにね。いや、僕、梅津和夫は意外と、
Alors oui, Kazuo Umezu, il a aussi imaginé des histoires de SF pure avec vraiment des récits très amples, etc. Mais en effet, il y a aussi beaucoup d'œuvres dans lesquelles on se concentre vraiment sur le noyau familial. Et je crois que pour des raisons, on va dire, assez pragmatiques, qui sont que j'ai un budget assez limité quand je travaille. Je ne peux pas me permettre de convoquer des créatures extraterrestres ou des profondeurs des abysses. Et donc, je fais moi aussi avec ce que j'ai au plus près de moi, ce qui m'est le plus familier. Et donc, c'est pour ça que, un peu comme Kazuo Umezu, il m'arrive en effet de travailler souvent avec la cellule familiale ou en tout cas la proximité, on va dire, de chacun des protagonistes.
Ce qui est assez fascinant dans votre cinéma et votre approche de l'horreur, c'est que, évidemment, très souvent, l'horreur vient de l'intérieur, vient de l'humain, la peur, l'angoisse, les démons sont intérieurs, mais ils peuvent croiser des peurs millénaristes. Il y a un côté souvent fin du monde et qui renvoie. Bon, il y a une tradition dans le cinéma japonais qui commence à Godzilla, hein, mais il me semble qu'il y a un mariage dans votre cinéma entre ce côté, c'est la fin du monde, et en même temps, l'horreur vient de soi ou de la cellule familiale, vient du très quotidien.
おっしゃる通りで、それが僕も自分でも なかなかどう作家性なのかもしれませんし、自分の弱点だなといつも思うところなんです。何かっていうと、どうせ小さい世界しか描けないなら、小さい世界だけで綺麗に終わっていれば、おそらくジャンル映画としても最も美しい形になるというのは分かってるんですけども、小さな世界で、最後平和が訪れました、終わりだとね、やっぱり。
Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça ma patte en tant que réalisateur, ou si ce n'est pas plutôt, et c'est ce que je crois, un défaut chez moi, ou peut-être mon point faible, c'est que, comme je vous le disais à l'instant, j'ai tendance à travailler sur des mondes assez petits, des univers assez petits. Et puis, c'est vrai que dans les films de genre, normalement, il y a une fin qui est assez claire, une fin presque parfaite, qui fait que le film se clôt. Mais moi, vu que je travaille sur des mondes comme ça, très restreint, je me dis que si la fin est trop propre, si elle est trop parfaite, ben on s'ennuie un peu, il manque quelque chose. Donc parfois les situations se résolvent à l'intérieur de la famille, mais je me dis, mais oui, mais le monde autour d'eux, il y a quand même un monde, c'est-à-dire de l'autre côté de l'écran, le monde entier continue à bouger, à avancer, il existe, et j'ai toujours envie d'aller un petit peu plus loin que la fin de l'intrigue principale pour ouvrir, et j'aime bien cette sensation un peu d'inachevé. Le problème, c'est que souvent, moi-même, je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Et donc, c'est un peu irresponsable de ma part, parce que je délègue, je m'en remets aux gens qui voient le film. Et ça, j'avoue, c'est un peu une mauvaise habitude. J'en suis désolée.
Oui, d'ailleurs, il y a vous avez des scénarios qui sont très, très curieux. Ou par exemple, je vois dans Cure, le tueur, en fait, n'est pas vraiment un tueur. C'est juste quelqu'un qui imprime des pulsions de mort sur son passage. Ou alors dans Rétribution, ce sont juste des gens qui sont passés en ferry à côté d'un hôpital avec une femme qui était maltraitée dans cet hôpital, mais qu'ils n'ont jamais vue. Et donc, ils sont coupables de quelque chose qui est finalement très éloigné d'eux. Est-ce que ça voudrait dire que dans votre conception du cinéma et du monde, en fait, il n'y a pas vraiment d'innocents, qu'on est tous coupables de quelque chose ?
そうですね。無実。難しい。とにかく、やっぱ僕、結構怖い映画とか、その、暴力的な映画とかをいっぱい撮っているのに、こんなこと言うのもなんですけども、人間ってもともと暴力的であったり、恐ろしかったりする人間はまあいないだろうという変な確信があって、ただそういう人であっても
Alors, c'est un peu bizarre de ma part de dire ça alors que je fais des films qui font peur et des films violents, etc. Mais à vrai dire, je ne pense pas que l'être humain soit fondamentalement mauvais. Je pense qu'on ne naît pas méchant, violent, agressif, fou. Par contre, je pense qu'une toute petite chose peut nous faire basculer. Et je pense qu'une influence extérieure peut nous faire vriller, peut nous faire devenir ce qu'on n'était pas au départ, c'est-à-dire ou méchant ou agressif, etc. Mais il n'y a pas de façon originelle chez l'être humain, à mon sens, de mauvaises intentions, disons. Donc au départ, les personnages sont souvent bons, ils vivent en paix. Mais comme j'ai envie de faire des films divertissants quand même, il faut que j'instille une espèce de dose de violence. Il faut faire en sorte que le crime puisse se produire pour que le spectateur puisse se réjouir. Et donc, évidemment, dans un monde parfait, tout le monde vivrait en paix, tout le monde serait gentil et ce serait super, mais malheureusement, les films seraient peut-être moins intéressants. C'est un peu compliqué de répondre à votre question. Ma réponse n'est pas très claire, mais je pense que c'est aussi parce que la question était un petit peu tordu. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.
Alors dernière question, en espérant qu'elle ne soit pas tordue, Kyochi Kurosawa, à la fin de Cloud, les deux personnages principaux sont dans une voiture, viennent de réchapper à un massacre généralisé. Il y a le tueur qui a sauvé la vie de son patron et puis qui lui dit, maintenant, moi je m'occupe de tout le reste, mais toi, gagne de l'argent, tu fais ce que tu veux. Et il lui dit, à ce moment-là, viennent de s'ouvrir les portes de l'enfer. Alors, dernière question, Kyochi Kurosawa, pour vous, à quoi ressemble l'enfer ?
いや、そうですね、何を考えて走ったのかな、まあ、あそこでやりたかったのは、まあ、主人公が、まあ、もう本当に、それまでは何度も言いますけども転売屋をやっている、まあ、どちらかというと善良な気の小さい人間だったんですけど、どこか自分世界の新しい、うわ難しい、新しい構造を発見した。
Je me souviens plus très bien pourquoi j'ai eu envie de cette fin, pourquoi j'ai eu envie que le film se termine comme ça. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, ce héros, ce personnage principal, au départ c'est quelqu'un de plutôt gentil et timoré. Puis au fil de ses expériences, c'est comme s'il découvrait un peu le véritable état du monde, comme s'il comprenait la structure du monde dans laquelle il vivait. Et donc il a cette révélation à la fin du film, c'est-à-dire que tout au long du film, mais probablement tout au long de sa vie, voilà, de personnage, il n'avait pas compris que c'est le monde dans lequel il vivait qui était l'enfer, quoi, que c'était en fait l'enfer sur Terre et que désormais il allait devoir continuer à vivre en enfer dans ce monde dont il ignorait tout jusqu'à présent et que là il a l'impression de voir sous son véritable jour. Voilà. La question est quand même un peu compliquée, donc à nouveau je ne sais pas si la réponse est à la hauteur, mais en tout cas je crois que c'est ce dont j'avais envie, en tout cas pour clore ce film-là.
Elle l'est. Merci infiniment Kyochi Kurosawa de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Mathilde Incerti de l'avoir rendu possible et à Laure Ledimna d'avoir traduit vos propos et à l'équipe donc du Festival de Reims Polar d'avoir encadré tout cela et puis à l'équipe technique Dimitri Gola et Fabien Laléouze. Entretien donc avec Kyochi Kurosawa, Reims Polar, le film Cloud sort le 4 juin.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Il y a avant une rareté sonore absolue trouvée et dénichée par Laurent Polleret. Chronique maintenant dans cette émission. On commence avec vous, Paloma Hermine Hidalgo, avec quelque chose et de quelqu'un que nous aimons infiniment.
Oui, plongeons maintenant dans Ce que nous avons perdu dans le feu. Adaptation graphique de 4 nouvelles de Mariana Enriquez, prêtresse, s'il en est du nouveau récit argentin et du gothique. Vous sentez ce frisson ?
Oh là, arrêtez là.
Oh, cette chaleur, François, qui vous monte à la gorge. Et si, au lieu, François, de regarder l'horreur avec les yeux de l'innocent, n'est-ce pas, vous la viviez comme une brûlure au fer rouge ? Dès le début, une voiture en flammes. Au volant, une femme implacable. Elle est l'incarnation de la résilience ou peut-être de la folie, qui peut dire. Or, ce qui nous sidère, ce n'est pas le feu, ni la bagnole qui flambe. Non, c'est ce livre-là, sur le siège passager, intitulé précisément « Ce que nous avons perdu dans le feu ». Parce que dans Buenos Aires, hein, tout brûle, tout se consume lentement, inexorablement, dans une impunité absolue. Mariana Enriquez, donc, écrivain de l'extinction, et Luc Hanin, son remarquable complice graphique, nous offrent une descente aux enfers. Ce n'est pas de l'angoisse, non.
C'est de l'anatomie, une défiguration de l'âme humaine. Or, le crime ici n'est pas dans ce qui brûle, il est dans ce qui reste. Une Buenos Aires rongée de l'intérieur, un champ de ruines peuplé de narco-sorciers, de putes camées, de gamins assassinés ou prostitués, de nourrissons aux paupières brûlées et de têtes tranchées dont le pouvoir magique est une illusion. Toxicomanie, fétichisme morbide, nécrophilie enfantine, bref, tout ce qu'on aime, autant de scénettes où la violence, ce continuum, cette vérité inaltérable, se perpétue non par malice, mais par structure. L'art très pictural de Lucanine est à l'image de cette putréfaction. Son trait, d'une acuité clinique, se noie dans des flous bleus turquins ou fangeux. Bistre, sépia, rouille, terre de sienne, chaque page est un éclat de cette misère, un détail presque trop précis, trop nette dans sa violence. Mais les quatre nouvelles ici adaptées ne sont pas de simples récits de monstruosité, plutôt des entités vivantes, des fables ultra-contemporaines où se mêlent fantasmagorie et réalisme cru. En découle une philosophie de l'extinction, disais-je, une vision radicale où l'acte de barbarie est simultanément exorcisme et verdict. Ce que nous avons perdu dans le feu, c'est quoi, en fait? C'est un doigt fiché dans la plaie d'une société désormais trop sale pour être sauvée. Pas une perte, donc, mais une libération. Une libération de l'illusion d'un monde pur, un retour à la vérité nue, celle de la déflagration qui nous définit. Le feu est, en somme, tout ce qui nous reste, et il nous forge à son image. Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez et Lucanine a paru en 2024 aux éditions du Sous-Sol, dans une traduction de l'argentin signée Anne Plantagenet. Mentionnons aussi, parmi les flammes du déchirement, n'est-ce pas, une tragédie totale, Oedipe Roi, dans la très contemporaine mise en scène d'Éric Lacascade, une réécriture où chaque geste éclaire l'inexorable chute d'un pouvoir, d'une passion, de la civilisation elle-même. À découvrir jusqu'au 27 avril 2025 à La Scala, à Paris.
Merci Paloma, donc, et puis on attend avec impatience les prochains volumes signés Mariana Enriquez et édités par Adrien Bosque aux éditions du Sous-Sol. Monsieur Guillot, avec un album qui est absolument génial.
Ah, c'est le grand livre de bande dessinée qu'on attendait depuis le début de l'année.
La claque.
Ça s'appelle Crimi. C'est signé Thibaut Vermeaux, qui est un romancier au scénario, et Alex W. Inker. Inker, c'est au dessin. Et Inker, ça veut dire l'ancrage, l'encreur. Et c'est effectivement un encreur fou. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Crimi? Crimi, c'est le petit nom en allemand des films criminels, des films policiers, du genre policier. Et ce livre raconte comment un certain Fritz Lang va inventer rien moins que le film noir, puisque M. le Maudit, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment le prototype du film noir, et qui essaimera ensuite à Hollywood avec tous ces clairs-obscurs. Alors comment est-ce que Fritz Lang, qui venait de se ramasser avec son grand film de science-fiction qui s'appelle La Femme sur la Lune, énorme projet tourné film magnifique, mais alors qui est un flop absolu en salle, va avoir l'idée de s'inspirer d'un tueur en série, un des premiers tueurs en série documentés allemand, le fameux vampire de Düsseldorf, Peter Curtin, qui à Düsseldorf assassinait des enfants, des petites filles et des grandes filles aussi. Eh bien, c'est ce que raconte ce livre, imaginant que un certain inspecteur Lohmann. Alors, si vous êtes un peu adepte du cinéma de Fritz Lang, l'inspecteur Lohmann, c'est un personnage de fiction que jouait Otto Wernicke dans deux films de Fritz Lang réalisés coup sur coup, M. le Maudit, puisque c'est lui qui mène l'enquête, mais aussi Le Testament du docteur Mabuse. Et alors, ils imaginent, les auteurs, que cet inspecteur Lohmann, en fait, va manipuler Fritz Lang pour faire un film à partir de cette histoire véritable sur laquelle il enquête, pour d'une certaine façon faire la catharsis de la violence du peuple allemand qui est en train de monter. On est à un moment, c'est la montée du nazisme, évidemment, c'est ce que raconte M. le Maudit, mais c'est aussi le moment où l'homme de la rue devient un criminel en puissance. Donc, il faut faire un film pour prendre toute cette violence et que les gens arrêtent de se tuer. Évidemment, ça va échouer puisque les nazis arrivent au pouvoir et que les meurtres de masse qu'on connaît vont avoir lieu. Donc c'est déjà très très passionnant ce que raconte le livre. Mais alors, pour ce qui est de la partie graphique, c'est la fête
génial,
totale
génial.
Pour les yeux. C'est de l'encre, hein, Inker, je vous l'ai dit, mais rehaussé au fusain, qui vous donne tous les clairs obscurs de cette République de Weimar, un peu saumâtre et finissante, avec un talent pour la mise en scène graphique. Enfin, c'est tout, totalement stupéfiant. Nous recevrons dans Plan Large samedi prochain les deux auteurs, donc on travaillera en profondeur ce livre tout à fait extraordinaire. À ne pas rater, c'est Crimi chez Sarbacane.
Ouais, oui, c'est le mariage de Gus Boffa et d'Otto Dix. Un album vraiment absolument génial. On passe maintenant avec vous, Sixtine Audebert.
Alors, après Patrick Hudlin, après Alain Fédry, je poursuis ma série sur la rock critique avec Rock en vrac, rencontre avec des cahiers du rock et du roman noir de Michel M. Barek, une réédition augmentée parue aux éditions Relatives. Alors, Michel M. Barek, c'est un nom que j'ai rencontré en feuilletant, disons relativement récemment, un vieux métal hurlant, en tombant sur une chronique de 1984, sans doute signée par Philippe Manœuvre, de Sur la ligne blanche, le premier roman d'M. Barek, polar sous rock tension, scandé avec toutes les esbroufes de rigueur dans ce genre codifié, publié alors qu'M. Barek, à l'époque, venait tout juste de quitter le phare musical, qui était la revue Best, après y avoir officié pendant 10 ans. Alors, entre ce premier fait d'armes de 1984 et aujourd'hui, l'homme a beaucoup écrit, notamment pour la série noire. Et nous nous situons une quinzaine de livres plus tard, lorsque je pose, il y a quelques semaines de cela, les yeux sur cette republication de Rock en vrac sur la table des nouveautés musique de la librairie Parallèle. Alors, opportunément, ce généreux format réunit des écrits journalistiques et des nouvelles. L'occasion rêvée donc pour moi de découvrir l'autre facette de la plume de Michel M. Barek, dépouillée des oripeaux scénaristiques de la fiction, au travers de reportages et de portraits de géants du blues. Alors, l'auteur commence son livre en croquant avec pittoresque et chaleur la rédaction de Best, avant d'embarquer son lecteur au gré des tribulations du jeune journaliste téméraire qu'il fut, missionné par le magazine aux stations obligatoires du pèlerinage rock des années 70-80, c'est-à-dire Mont-de-Marsan, Kingston en Jamaïque, la rue de Verneuil où régnait Serge Gainsbourg, Donington avec ses Monsters of Rock, et j'en passe. Après ces échauffements viennent les voyages de la maturité, de plus mélancolique vagabondage de l'écrivain à Memphis, hein, devenu le Disneyland du rock, ainsi qu'en sa terre promise, la musicale et littéraire New Orleans, pardon, j'ai mélangé. Cette prose déploie un style qui, quoique journalistique, s'aligne avec, on ne le dira jamais assez, les tenants de la grande littérature compartimentée derrière son L majuscule. Et après lecture, reste une intense émotion qui berce, à l'instar de ces quelques lignes tirées d'un superbe hommage à Lavilliers. Il est des nôtres, je veux dire les cabossés du rock'n'roll, capables de s'embarquer au petit bonheur d'un coup de tête pour voir à quoi ressemble vraiment une image entreaperçue à la télé, une histoire cafouilleuse racontée à l'angle d'un bar par un gars de la marine. Le regard à la godille de l'auteur d'une nouvelle publiée par un improbable supplément littéraire peut tout autant donner le signal d'un départ sur la piste aux étoiles. Il est des nôtres, de cette confrérie de maquilleurs du réel où il est vain de chercher le vrai en supposant le faux. C'est donc Rock en stock de Michel M. Barek et c'est paru aux passionnantes éditions Relatives.
Les éditions Relatives, mais il y a d'autres grandes plumes comme ça, de la rock critique des années 70 qui continuent de publier, parce que ça, ce sont des souvenirs intimes pour moi, mais Hervé Picard par exemple.
Tout à fait, Hervé Picard.
Hervé Picard
qui publiait donc les seules chroniques dédiées au hard rock dans Bess et qui effectivement continue de publier des romans, qui était professeur de latin, disons-le, à l'époque.
Oui.
Et qui donc, la nuit, était rock critique et qui continue de publier des romans au Castor Astral.
Ouais. Je me souviens de la fin d'un article d'Hervé Picard où il disait, à propos d'un concert de King Crimson à l'Olympia, et l'on vit enfin apparaître sur la scène cette beauté convulsive dont parlait André Breton. Je n'étais tout émouvu. Merci à toutes et à tous d'avoir fait écouter cette émission, Ce que nous avons perdu dans le feu, de Marianne Henriquez et Lucas Nin, cette audition du sous-sol. Jimmy, génial album, c'est chez Sarbacane. Et puis donc, n'oubliez pas Rock en Vrac de Michel Mbarek, c'est aux éditions Relatives. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Alexandre Dan, Claire Poissignon, Sixinon Beck, Lamata Dugard, Paloma Hermine Hidalgo, Antoine Guillot et François Jolier vous remercient d'avoir entendu. Écoutez Mauvais Genre, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Benoît Piron et Pacôme Thielman.